La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas.
Bonjour, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 2 Samuel 18, 1 à 5. David passa en revue le peuple qui était avec lui, et il établit sur eux des chefs de milliers et des chefs de centaines. Il plaça le tiers du peuple sous le commandement de Joab, le tiers sous celui d'Abishai, fils de Tseruja, frère de Joab, et le tiers sous celui d'Ittai de Gath. Et le roi dit au peuple, « Moi aussi, je veux sortir avec vous. » Mais le peuple dit, « Tu ne sortiras point, car si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que l'attention se portera. Et quand la moitié d'entre nous succombera, on n'y fera pas attention. Mais toi, tu es comme 10 000 de nous, et maintenant, il vaut mieux que de la ville, tu puisses venir à notre secours. » Le roi leur répondit, « Je ferai ce qui vous paraît bon. » Et le roi se tint à côté de la porte, pendant que tout le peuple sortait par centaines et par milliers. Le roi donna cet ordre à Joab et à Abishai et à Ittai. Pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. Et tout le peuple entendit l'ordre du roi à tous les chefs au sujet d'Absalom.
Merci Emeline pour cette lecture. Bonjour à tous. Avant d'aller plus loin, j'aimerais préciser que la réunion de cet après-midi, celle qui aura lieu à 15h après le repas en commun, est une réunion qui ne portera pas uniquement sur l'expo santé qui se profile à l'horizon. Voilà. Ce sera plutôt l'occasion aussi de développer différents sujets qui ont trait à la vie de l'Église. Ce sera une réunion de vie d'Église, on pourrait dire informelle. Vous y êtes tous conviés. Alors, c'est un pasteur qui se préparait à prêcher le jour de la fête des Pères. Et justement, il voulait axer son message sur les qualités d'un bon père. Et c'est là qu'il s'est senti un peu à l'étroit dans ses chaussures. Il s'est dit, je vais quand même m'assurer auprès de mes enfants que je suis considéré comme un bon père. Alors il s'approche de sa fille Émilie et lui pose cette question. Émilie, oui, sur une échelle de 1 à 10, quelle note mettrais-tu à ton papa ? Alors Émilie réfléchit un instant, puis répond, 9,5. Mais c'était une bonne note. Le pasteur aurait dû s'arrêter là et se contenter d'une belle note comme celle-là, 9,5 sur 10, ce qui correspond à 19 sur 20. Excellent. Mais voilà que le perfectionniste en lui se réveille. Et il continue, mais qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour avoir 10 sur 10 ? Et sans hésiter un instant, elle répond, alors trois choses, papa. Vous voyez, elle a été indulgente, hein, parce qu'il y a quand même trois choses. Premièrement, cuisiner des plats un peu plus variés. Deuxièmement, aider maman à la maison, parce qu'elle est trop souvent seule et fatiguée. Et troisièmement, être un peu plus gentil avec mon frère. Parce qu'elle a constaté que papa le grondait souvent. Alors oui, vous voyez, rien n'échappe au regard de nos enfants. On a l'impression parfois que, bon, tout s'écoule dans la plus parfaite normalité. Et en tant que parents, on découvre finalement qu'on n'est pas irréprochable. Et qu'aux yeux de nos enfants, eh bien, on peut avoir aussi des faiblesses, voire même des défauts. Alors, le mois de mars, C'est le mois qui voit le retour du printemps, n'est-ce pas? La verdeur, la jeunesse des saisons qui revient. C'est le mois de la jeunesse chez nous. Et c'est aussi le mois de la Bible dans toutes les églises, le mois de la Bible. Alors, j'aimerais associer la Bible avec ce thème qui nous tient tous à cœur, n'est-ce pas, celui de la jeunesse, puisque nous avons un projet intergénérationnel. Nous avons une vision intergénérationnelle de l'Église et nous avons donc des objectifs intergénérationnels. Je vous invite à vous joindre à moi dans une prière. Seigneur, oui, nous voulons maintenant te laisser nous parler à travers un récit peu banal, interpellant, un récit duquel nous voulons tirer les meilleures leçons pour nous aujourd'hui. Dans cette belle perspective que tout nous offre, d'un salut pour tous, grands et petits. Amen. Dans le passage que ma fille Emmeline a lu en introduction, vous avez cette requête poignante d'un roi tourmenté. Verset 5. Dans le deuxième livre du prophète Samuel, au chapitre 18. Doucement, demande-t-il à ses généraux, doucement avec le jeune homme, doucement avec le jeune Absalom. On ne sait pas très bien quel était l'âge d'Absalom, mais enfin, il avait l'âge de briguer le trône. Il avait l'âge de mener des batailles. Et hélas, il avait déjà tué un homme. C'est sûr, son propre frère, ou demi-frère plus exactement, un certain Amnon. Mais voilà, depuis que David avait remporté cette victoire éclatante sur Goliath, donc David c'est le père d'Absalom, c'est lui qui fait cette requête désespérée, doucement avec le jeune homme, doucement avec Absalom. Eh bien, depuis ses jours de gloire, David était devenu une star en Israël. Il était au centre de toutes les attentions. On lui avait, bien sûr, rapidement confié des responsabilités en ce temps-là, quand il s'était illustré par cet exploit guerrier. Hein, je rappelle sa victoire sur le Philistin géant. Eh bien, depuis, David était devenu un leader national remarquable. Il était brillant. Et il était sérieux dans sa gestion des affaires du pays, économique, financière, gestion diplomatique, militaire, dans les arts et les métiers. Il a aussi propulsé la nation. Et donc, il était reconnu comme étant un éducateur de la nation. Un éducateur de la nation. Et il était aussi apprécié pour ses qualités spirituelles. Donc oui, David était bel et bien un grand roi. Un grand roi. La façon dont il a structuré le pays et dont il en a étendu les limites le prouve. Mais ce jour-là, il se sentait tout petit, David. Ce jour-là, il était meurtri parce qu'il avait en face de lui un adversaire pas comme les autres, son propre fils. Quel drame! Un père qui doit combattre contre son propre fils à la vie et à la mort. Et qui demande à ses généraux, alors que son fils menace de le tuer, de lui ôter la vie, de commettre donc un parricide, d'aller tout doux avec Absalom. Cette demande est tragique parce qu'il faut la placer dans un contexte, n'est-ce pas? Vous savez, les soldats de David étaient les meilleurs. Ils étaient connus pour être agressifs, plus agressifs que des ours sauvages privés de leurs petits. Et voilà que David leur demande, que David les supplie d'y aller avec indulgence ce jour-là. Comment peut-on combattre et en même temps, ménager l'ennemi? Est-ce possible? Il y a là une contradiction. Oui, parce que David était partagé entre, d'un côté, son devoir de chef de la nation, il fallait obtenir à tout prix la victoire, et de l'autre côté, son amour de père à l'égard de son fils. Vous savez, tout cela, je le dirai rapidement, mais résulte de son adultère. L'adultère qu'il a commis avec Bathsheba. D'ailleurs, en prononçant la sentence qui devait s'abattre sur lui, il a dit, bien, il faudra que le coupable restitue 4 fois ce qu'il a pris, ce qu'il a usurpé. Eh bien, David a pris la vie d'un homme, l'époux légitime de Bathsheba, et il devra donner, subir en fait, la mort, hein, donner la vie ou subir la mort de 4 de ses fils. Le premier fils de Bathsheba, et puis Amnon, tué par Absalom. Un peu plus tard, vous le savez, Absalom, tué par Joab. Donc, dans les chapitres, justement, les versets qui suivent. Et puis, finalement, Adonija, qui va briguer le trône et qui va vouloir prendre la place de Salomon. Donc, il en perdra effectivement 4. Donc là, David est travaillé. Et il est partagé, je disais, entre son devoir de chef de nation et son amour de père à l'égard de son fils. Il a comme un sombre pressentiment. Il voudrait lui épargner la vie, mais il sent bien que ça va mal se passer. Alors il va dire doucement avec le jeune homme. Et sa demande est justifiée, c'est son fils quand même. Vous voyez, là, c'est ce qu'on appelle une dissonance cognitive aujourd'hui. On est partagé entre le rationnel et l'émotionnel. D'un côté, son cerveau rationnel, sa raison lui dit, il faut le tuer, c'est un danger pour la nation, pour l'équilibre du pays, pour ta propre vie. Et de l'autre côté, mais c'est ton fils. Et qu'as-tu fait, qu'as-tu mérité, que s'est-il passé pour que tu te retrouves face à lui? C'est pas pour rien que ses soldats vont lui dire, non, toi tu restes là, nous on va à la guerre, mais toi tu ne nous accompagnes pas. Vous savez, ce drame, beaucoup d'entre nous le connaissent. Père ou mère, partagé entre notre raison et nos émotions face à nos enfants, n'est-ce pas? Ça arrive souvent. Alors, oui, David, d'un côté, avait de grandes qualités. En tout cas, il les manifestait à l'extérieur de son foyer, mais dans sa propre maison, c'était pas la gloire. Il faut le reconnaître, c'était pas la gloire. Et souvent, on constate que les gens qui ont des responsabilités, je m'inclus, les leaders, les gens qui portent de lourdes charges, des gens qui sont appelés à être forts au cœur de la société et à manifester beaucoup de courage, sont souvent étrangement faibles chez eux, pour différentes raisons. D'ailleurs, les statistiques le prouvent, hein. En certain temps, la revue Fortune a publié un article intitulé « Pourquoi les cadres supérieurs échouent souvent en tant que parents ?» Et on y trouve là des statistiques, dont une qui montre que 36%, on va dire un gros tiers, des enfants élevés par des cadres supérieurs doivent être traités pour abus de drogue ou désordre psychiatrique, alors qu'ils ne sont que 15% dans cette étude, hein, qui doit être relativisée, mais dans le reste de la population. En tout cas, plus de 2 fois plus d'enfants, de personnes, on va dire, dirigeants, qui sont touchés par cette problématique. Comment des pères qui exercent tant de responsabilités dans le monde professionnel échouent à ce point à être des pères exemplaires chez eux? Vous voyez que David est meurtri et David se rend bien compte que cette situation est en grande partie le résultat d'un certain nombre d'erreurs qu'il a commises en tant que père, ou tout simplement en tant que parent, parce que je ne veux pas parler qu'aux hommes, même si, bien sûr, On se sent piqué quand on pense à David et à sa relation avec son fils, lorsqu'on est soi-même un homme et surtout un père. Alors, oui, David a commis des erreurs, il le sait au fond de lui-même, et il va devoir boire la coupe d'amertume. C'est des erreurs assez graves, en fait, assez graves. Disons pourquoi on en arrive là, on peut se douter que ce n'était pas anodin. Vous imaginez en train de vous battre, j'ai presque envie de dire en duel avec votre propre enfant. Et c'était pas un jeu, hein. C'était pas un jeu. D'ailleurs, Absalom avait déjà pris les 10 concubines de son père, donc c'était déjà attribué les 10 femmes de son père. Donc c'est-à-dire que le défi était grand et qu'il était en train de le braver. Alors, première chose, je crois qu'une première erreur que David a commise, une grande erreur, qui a impacté donc toute la famille, voire même la nation, c'est de fermer les yeux sur un acte criminel qui a été commis au sein de sa famille, au sein de la famille royale. Et cet acte criminel qui aurait dû être réprimé, c'est finalement son fils Absalom qui s'est chargé de le réprimer. Je ne vais pas être trop long ni trop explicite, mais Absalom avait une sœur. Même père, même mère, nommée Tamar, très jolie Tamar. Et son demi-frère Amnon était amoureux d'elle, passionnément, enfin, attiré par elle, parce qu'elle était belle et attirante. Et voilà qu'il va élaborer un stratagème avec l'aide de son ami, Jonadab, pour la coincer, et disons-le tout de suite, pour abuser d'elle, en clair, pour la violer. Avec, d'une certaine façon, le consentement du roi qui permet à Tamar d'aller voir son demi-frère, de lui offrir une boisson chaude, quelques gâteaux, et de prendre soin de lui, alors qu'il faisait semblant d'être malade. Et le roi, lui, se contente de s'irriter. Il est juste irrité. Le texte dit qu'il s'est irrité quand il a appris la nouvelle du viol de sa fille Tamar par son fils Amnon. Aucune parole de réprobation, aucune réaction ferme, aucun courage dans le rétablissement des limites et du droit. Il n'y a pas de jugement, alors qu'il aurait dû y avoir un jugement. On aurait pu atténuer la peine, mais normalement c'était quoi? La mort. Alors on imagine que, oui, le roi aurait pu atténuer la peine, il aurait pu demander restitution. Mais non, il s'irrite, dit le texte. Et c'est tout. Il attend que les choses se calment. Mais de son côté, Absalom va recueillir Tamar chez lui. Et Absalom, lui, développe une colère froide. Le texte nous dit, il n'a rien reproché à son demi-frère Amnon, au violeur de sa sœur Tamar. Mais il a dit, viens chez moi, moi je vais... tant bien que mal, couvrir ta honte, pauvre sœur. On t'a déshonoré, il t'a déshonoré, et il l'a pris en haine, littéralement. Et quand c'est comme ça, le père n'intervenant pas, c'était le rôle du père, le roi, le juge suprême de la nation, de faire quelque chose. Ce n'est pas parce que ça touchait sa famille, sa propre chair, quelque part, qu'il fallait rester muet, qu'il fallait juste se contenter de se fâcher dans son coin. Il fallait agir, il fallait prendre des mesures, il fallait montrer à Absalom et à ses autres fils, à ses autres filles, eh bien, qu'il était vraiment en colère contre ce crime et qu'il fallait que justice soit rendue. Et donc, c'est Absalom qui va se charger de rétablir la justice, puisque son père ne l'a pas fait. Alors, imaginez, Absalom est en colère contre son frère, et en même temps son père, hein, les deux. Parce qu'il a pu penser de son frère, il n'a pas de très belles choses, et en même temps de son père qui restait immobile. Donc ça, c'est une première question. Quelle est notre attitude vis-à-vis des jeunes? Je crois que les jeunes ont besoin aussi de parents qui posent un cadre, qui mettent en place des limites. Il y a des choses qu'on peut dire, des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. Et puis, certains comportements appellent, oui, des sanctions. Adaptées, mesurées, raisonnables, mais appellent des sanctions. On peut les mêler de grâce, mais parfois, ce n'est pas toujours possible. Parce que l'enfant doit apprendre à porter les conséquences aussi de ce qu'il fait. C'est vrai dans la famille, c'est vrai dans l'église, c'est vrai dans la société. Quel que soit votre âge, vous devez répondre de vos actes. Si vous êtes mineur, ce sera votre responsable légal qui le fera pour vous. Mais quelqu'un doit répondre de ce qui est fait et de ses conséquences. Oui, le bâton, entre guillemets, est nécessaire dans la famille. Celui qui ménage son bâton déteste son fils, dit un proverbe, et c'est le fils de David qui l'a écrit. Celui qui l'aime n'hésite pas à le corriger. Alors il ne s'agit pas, bien sûr, de la bastonnade, c'est pas ça, hein. On va voir d'ailleurs. Deuxième erreur de David, c'est justement d'avoir été trop dur. On va comprendre comment. Mais là, en tout cas, il n'a pas supposé des limites. Et vous savez, les gens qui réussissent dans leur éducation sont des gens qui savent poser des limites, on le sait aujourd'hui. Une éducation qui porte des fruits, c'est à la fois, et j'ai entendu un cours de spécialiste, une éducation autoritaire, c'est le mot qu'a utilisé la spécialiste de la question, autoritaire et non pas autocrate ou autoritariste, elle a fait bien sûr la nuance, mais dans laquelle il y a de l'autorité avec des limites, avec une relation de cause à effet qui doit fonctionner, et il y a de la bienveillance, il y a de la présence, il y a du soutien. Mais ici, on pense d'abord aux limites que David n'a pas su poser dans sa propre famille. Il aurait dû y avoir un conseil de famille, il aurait dû y avoir des mesures fermes, des mesures répressives pour rétablir le droit. Et donc, c'est Absalom qui va s'en charger. Mon père ne le fait pas, je le vais faire. Et puis, il s'est arrangé pour... pour réunir ses frères et sœurs à l'occasion d'une fête, avec l'accord du roi, là encore une fois. Le roi donne son accord, mais n'est pas présent. Et à ce moment-là, eh bien, avec ses serviteurs, il frappe uniquement Amnon, le frère qui a violé Tamar, et c'est bien sûr le scandale. Le roi en est informé, et là, bien sûr, il est doublement blessé, doublement meurtri, il se fâche contre qui ? Celui qui reste, Absalom. Il est fâché contre Absalom à tel point qu'il ne veut plus le voir. Et donc Absalom va trouver refuge chez les étrangers. Il va trouver refuge au loin. Parce qu'effectivement, il est tombé en disgrâce devant son frère. Tombé en disgrâce. Ça, c'est une première chose. Donc David a dû comprendre ce jour-là quand il a dit à ses soldats doucement avec le jeune homme. Enfin, on suppose que s'il avait été un peu plus juste il y a quelques années précédemment, eh bien, il n'en serait peut-être pas arrivé là. S'il avait assumé ses responsabilités, s'il avait eu une parole et s'il l'avait tenue. Être parent, c'est assumer. Être parent, c'est poser aussi une parole, un cadre. Et un cadre, ça rassure, ça sécurise. On ne laisse pas tout faire parce qu'on ne peut pas tout faire. C'est l'apprentissage de la vie. C'est vrai, si nos enfants expriment parfois un certain mécontentement, et même s'ils protestent au sujet des règles que nous avons établies, même s'ils ont du mal à accepter ces leçons que nous voulons leur donner, au fond d'eux-mêmes, ils sont soulagés de savoir que quelqu'un les aime assez pour avoir le courage d'établir des limites pour leur bien. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à des aberrations. Les gens qui n'ont pas de limites finissent par perdre même, je dirais, la raison. Parce qu'ils ne comprennent plus comment fonctionnent les relations dans notre monde. Et puis, il y a un deuxième gros problème dans l'éducation, le rapport donc de David, figure d'autorité avec le jeune homme. Hein. On peut élargir aussi aux jeunes filles, bien sûr, aux enfants hein, de tout sexe et de tous âges. Eh bien, c'est criant. C'est après le départ donc d'Absalom. Après le départ d'Absalom, eh bien, le roi ne va manifester à aucun moment le désir de le voir revenir à la maison. À aucun moment, il va faire appel à Absalom. C'est-à-dire qu'il durcit son cœur vis-à-vis d'Absalom. Et il refuse tout bonnement de le revoir. Donc Absalom s'était enfoui il a trouvé refuge donc chez le fils du roi de Geshur. Voilà. Et on nous dit que pendant tout ce temps-là, David pleurait son fils. Pas Absalom, qui était encore vivant, mais il pleurait en ce temps-là Amnon, le violeur. Oui, c'était aussi son fils, exactement. Et là aussi, il était partagé, bien sûr. Et ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, même les gens de l'entourage de David, les plus proches, on pourrait dire officiers de David, dont Joab, son neveu, le fils de sa sœur, Tseruya, même se dit, c'est pas normal que le roi ne fasse pas revenir Absalom après 3 ans. Et donc Joab, je vous inviterai à lire cela, au chapitre 14, met en place tout un stratagème pour obtenir du roi qu'il fasse revenir son fils Absalom de Geshur. Ce ne sera pas évident, hein. Il faudra qu'il fasse intervenir une femme assez sage, une femme habile dans sa présentation, son langage, pour infléchir le cœur du roi. Et elle va utiliser là aussi une parabole. Elle va mettre en scène quelque chose qu'elle aurait vécu, en fait c'est de la fiction, dans sa propre famille. Elle va demander au roi de juger, le roi va juger et elle va lui dire maintenant, ce jugement, tu ne pourrais pas l'appliquer à toi et à tes enfants? Et là encore, nouveau, David est touché de plein cœur. Comme la première fois quand Nathan est venu, ça sortait de la bouche d'un prophète, hein, qui lui parlait de vol de moutons, et de rap, en quelque sorte. Et là, maintenant, c'est une femme. Et David va dire, mais c'est pas Joab qui t'envoie, parce que David devait sentir que Joab souhaitait depuis un moment déjà le retour d'Absalom, que la situation était anormale. Comment le roi qui avait déjà perdu Amnon pouvait-il encore accepter la situation et d'une certaine façon perdre également Absalom? Parce qu'il devait avoir des nouvelles d'Absalom qui, dans son coin, trépignait d'impatience. Il voulait Absalom revoir son père. Imaginez avec quel sentiment de honte, de culpabilité il est parti. À la fois, il s'est dit « j'ai eu raison de le tuer, c'est ce qu'il méritait ». Et puis d'un autre côté, il était honteux parce que il n'a pas utilisé les voies officielles de la magistrature. Peut-être qu'il y avait d'autres moyens de régler ça que par l'assassinat. Bref, Joab obtient du roi qu'il fasse revenir Absalom. Mais alors c'est ça qui est assez incroyable, c'est que le roi refuse de voir Absalom alors qu'Absalom revient à Jérusalem. On est d'accord ? Le roi dit, va, ramène le jeune Absalom. Joab est tout soulagé. Joab se leva, partit pour Geshur, je suis au chapitre 14, verset 23, et ramena Absalom à Jérusalem. Ah, enfin, ils peuvent se voir, ils peuvent se réconcilier. Ils peuvent parler de ce qui s'est passé. David peut peut-être aussi apaiser son cœur en rencontrant son fils, qui lui-même a besoin d'apaiser son cœur. Eh bien non. Vous voyez ce que va dire le roi? Et là, il durcit encore son cœur. Et déjà, son cœur, il l'a durci pendant 3 ans. Et il va encore le durcir pendant 2 ans. Le roi dit qu'il se retire dans sa maison, qu'il ne voit pas ma face. Et Absalom se retira dans sa maison. Il est encore soumis à ce moment-là. Et ne vit point la face du roi. Mais il ne supporte pas cette situation. C'est l'enfant qui est relégué comme un objet qu'on méprise dans le coin d'une pièce où l'on ne va jamais. Imaginez la colère d'Absalom qui monte. Mais je suis revenu pour voir mon père. Je ne suis pas venu pour vivre comme un étranger, un paria dans la ville de Jérusalem. Et il va supplier Joab, qui a obtenu qu'il revienne à Jérusalem, qu'il lui obtienne cette fois-ci une audience auprès du roi. Il va le supplier. Et Joab, cette fois-ci, refuse, parce qu'il sent bien que le roi ne veut pas voir son fils. Alors il refuse. Et Absalom, quand même malin, un stratège, il va dire, demander à ses serviteurs de brûler le champ de Joab. Il va mettre le feu, là, au champ de Joab qui se trouve juste à côté du mien. Peut-être que ça va le faire bouger. Vous voyez, c'est la réaction de l'enfant qui n'a pas d'autre moyen que de devenir rebelle, que de casser les choses, que de casser les codes, que de casser les principes, que de, vous voyez, de faire tout le contraire de ce que font les parents, de ce que feraient les parents. C'est l'enfant en pleine révolte. Il met le feu au champ de Joab. Et là, Joab vient et remarquez que Joab ne lui fait aucun reproche. Parce que Joab comprend cette colère détournée d'Absalom. Il le comprend. Joab est plus compréhensif, bien sûr, dans ce moment-là, vis-à-vis d'Absalom, alors qu'après il va le tuer, hein, c'est Joab qui va le tuer, in fine. Mais à ce moment-là, Joab est bien plus compréhensif vis-à-vis d'Absalom que son propre père. Absalom répondit à Joab, « Voici pourquoi maintenant j'ai fait ça. Je t'ai fait dire, je suis au verset 32, « Viens ici et je t'enverrai vers le roi, afin que tu lui dises, « Pourquoi suis-je revenu de Guéchour? Il vaudrait mieux pour moi que j'y fusse encore. Je désire maintenant voir la face du roi. » C'est la seule chose qu'il voulait, c'est voir son père, c'est se réconcilier avec son père. Combien d'enfants souhaitent ça aujourd'hui? Se réconcilier avec leur père, éventuellement leur mère, mais on sait qu'aujourd'hui le gros problème, c'est les pères absents. C'est les pères des missionnaires. C'est les pères qui, dès que « Ah, t'es enceinte, je me barre, je disparais, je ne veux pas assumer. » Ça arrive souvent. Ou alors, je suis père à moitié. Ouais, j'essaie de récupérer les situations. Cet enfant avait besoin d'un père qui fasse preuve de bonté, qui dise « Oui, je comprends ta colère. » Avec le temps, quand même, il y a 5 ans qui se sont passés jusque-là, 5 ans. 3 ans à Guéchour, 2 ans à Jérusalem, sans qu'il se voie. Et il a fallu, là encore une fois, que Joab intervienne après que Absalom ait fait brûler son champ. Voyez un peu là, l'enfance qui demande, je veux voir mon père, je suis là que pour ça. Ça fait 5 ans que je suis obnubilé, j'en fais des cauchemars. Mais la colère s'était refroidie dans le cœur d'Absalom. Et c'est ça le malheur, c'est qu'après, il va toucher à ce qui fait le plus, ce qui a le plus de valeur aux yeux de son père. C'est son statut social. Ah, papa, il est roi? Ben moi aussi, je vais être roi. Je vais être roi à sa place. Je vais lui montrer que moi aussi, je peux, que moi aussi, j'ai de la valeur. Et il entre dans une rivalité insensée. C'est vrai, il transgresse le 5e commandement. Mais qui est le plus responsable ou coupable dans l'histoire? C'est peut-être pas Absalom. De mon point de vue, moi, c'est David. Et je pense que c'est aussi le point de vue de Dieu. S'il y a tellement de détails dans cette histoire, c'est parce que pour montrer que oui, David a une responsabilité. C'est le père absent, c'est le père fantôme, c'est le père qui ne fait que passer à la maison, qui n'a pas un mot à dire, ou qui ne refuse de discipliner ses enfants ou de leur manifester de l'amour, hein, selon les circonstances, parce qu'il a autre chose à faire, il est occupé. Et alors l'enfant, il va toucher à ce qui fait mal au père, ce qui est important aux yeux du père. Et c'est ce que fait Absalom, il va toucher à sa royauté, il va toucher à son image, celle d'un roi exemplaire, hein, et extraordinaire. Et il va fomenter une révolte, je passe sur les détails. Et après, bien sûr, les deux armées, David va fuir, va passer la vallée du Cédron avec ses hommes, tête basse, avec une capuche sur la tête, pieds nus, en train de se lamenter. Il ne sait plus quoi faire, il est paralysé face à un fils qui est en colère. Oui, il y a une rencontre dans la salle du trône, très, très officielle, un peu forcée. Ils se sont embrassés, ils se sont dit quelques mots, mais on sent que le problème n'a pas été réglé. Et c'est pour ça que Absalom va toujours plus loin dans la provoque et dans le défi. Et là, son cœur aussi est devenu mauvais, c'est ça. Et donc il a été tué dans une situation dans laquelle peu d'entre nous, enfin personne ici ne souhaiterait trouver la mort, évidemment. Mais vous voyez que c'est quand même un drame familial derrière des faits de guerre. Il y a un problème de famille. Et derrière beaucoup de problèmes de notre nation, de la vie du pays, il y a des problèmes familiaux. Je ne sais pas trop en dire, mais peut-être que vous avez parcouru quelques pages du livre de Valérie Trierweiler, après qu'elle a été répudiée. par le président de la République en son temps. Elle a écrit un livre.
Et voilà, et vous découvrez qu'il y a des problèmes familiaux énormes qui se cachent derrière les apparences. Et ça touche tout le monde. Et peut-être encore plus les hommes de pouvoir que les autres, qu'il ne faut pas blâmer, mais pour lesquels il faut prier. Oui, le problème, c'était le syndrome du père absent. Et David a été bien trop absent. Alors d'un côté, il n'a pas su prononcer la parole qu'il fallait pour rétablir le droit et la justice. De l'autre côté, il n'a pas su prononcer cette parole de bienveillance, de réconciliation par laquelle il disait « Je t'accueille à nouveau mon fils ». Peut-être essayer de trouver aussi un moyen de le corriger. Le bâton, c'est le symbole de la correction, de la discipline. Peut-être qu'Absalom aurait accepté parce qu'il était encore soumis à ce moment-là. Il a bien voulu rester pendant 2 ans dans sa chambre, enfin, dans son appart, dans sa cage dorée. Il était encore soumis jusque-là, mais après on sent qu'il y a l'enfant soumis. Enfin, non, on l'oublie. Et il va jusqu'au bout de sa rébellion, et c'est là qu'on se retrouve dans cette situation où David va dire « Mon enfant, mais faites doucement avec lui !» Parce qu'il commence à réaliser tout ce qui s'est passé et ce qui va lui arriver aussi. Et quand on vient lui annoncer la mort d'Absalom, à nouveau, il dit, mais la première question, hein, quand il voit venir le coureur, là, le messager, après la bataille, il dit, mais la première question, c'est pas est-ce qu'on a gagné, mais qu'en est-il du jeune homme? Qu'en est-il du jeune homme, le jeune Absalom? Et le deuxième messager qui arrive lui dit, de manière très diplomatique, il n'est plus de ce monde. Il a été tué et nous sommes vainqueurs. Alors, on pourrait dire, waouh, ce récit est quand même sombre. Comment est-ce qu'on peut tirer une leçon pour nous qui soit encourageante? Eh bien, on peut apprendre des erreurs déjà des autres, je pense. Et on constate que, hélas, dans notre société, ces erreurs se reproduisent. Que ce soit le père, bien sûr, figure première dans ce récit, mais ça peut aussi être la mère qui démissionne ou qui joue mal son rôle ou qui peine justement à incarner l'amour du Christ auprès de ses enfants. Et c'est là le but. Et vous savez, quand David a fui devant Absalom, il a traversé quoi? La vallée du Cédron. Et après, il est monté sur le mont des Oliviers. N'est-ce pas? Il a traversé la vallée du Cédron et il est monté sur le mont des Oliviers pour aller plus loin. Ça ne vous rappelle pas un parcours, ça aussi, que quelqu'un a commis en son temps pour aller jusqu'au bout, pour assumer jusqu'au bout, non pas ses propres fautes. Là, c'est David qui assumait ses propres fautes, et il fallait qu'il les assume jusqu'au bout, jusqu'à ce combat contre son fils, malgré lui. Mais quelqu'un d'autre a traversé la vallée du Cédron et monté bien plus tard sur le mont des Oliviers. C'est qui? Eh oui. Et lui, il a assumé les fautes de nous tous, de tous les parents défaillants, de toutes les mamans, les papas défaillants. Il a pris sur lui nos fautes, nos erreurs. Et il les a portées à la croix. Oui. Vous savez ce qu'a dit David dans sa détresse, quand il se met à pleurer sur Absalom, comme il n'a jamais pleuré sur un de ses fils? Que ne suis-je pas mort à ta place? Que ne suis-je pas mort à ta place? Il aurait préféré mourir à la place d'Absalom. Il n'y a pas aussi là une similitude avec le parcours de Jésus? Je suis mort pour toi. Je suis mort pour les jeunes. Je suis mort pour les parents. Je suis mort pour les papas, pour les mamans, pour les personnes âgées. Je suis mort pour vous. J'ai pris vos erreurs sur moi. Je suis venu pour vous racheter de vos fautes. Je suis venu pour vous apporter la vie. Ayez confiance. Vous avez une nouvelle chance. Vous pouvez faire triompher l'espérance dans vos familles. Vous pouvez, aussi longtemps qu'il y a encore de la vie, travailler à la réconciliation avec vos enfants, avec votre conjoint, avec éventuellement d'autres membres de la famille. Oui, c'est possible. Que Dieu nous vienne en aide, que Dieu nous fasse grâce à tous, Dieu nous fasse percevoir sa lumière, la lumière de la véritable éducation, car c'est lui qui nous éduque, et cela pour notre salut. Que le Seigneur vous fasse grâce, que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse vos familles, qu'il bénisse vos enfants, qu'il bénisse nos enfants et notre Église au nom de Jésus. Amen.